Merci beaucoup.
Eric aussi est en couleur.
Ben voilà, vous avez de la chance. Sinon, d'ordinaire, c'était jusque-là, c'était plutôt en noir et blanc. C'était plus triste. Alors, merci. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir, d'être présents nombreux pour cette rencontre donc, organisée dans le cadre de ce mois du patrimoine et autour de la sortie du numéro, justement, des nouvelles de l'archéologie. Un numéro tout à fait particulier, donc, que vous avez certainement eu l'occasion de voir et que vous pourrez acquérir pour celles et ceux qui ne l'ont pas déjà à la fin de cet échange, et que j'ai la chance de co-diriger avec Patrick Payet, qui vous parlera tout à l'heure de la grotte de Fronsac, dans le cadre de ce numéro, et avec Stéphane Petroniani, tous les deux membres du même laboratoire au Muséum d'Histoire Naturelle, comme moi. Alors, je voudrais tout d'abord vous présenter très rapidement les différents intervenants que vous allez pouvoir écouter ce soir. Alors, je vais commencer directement à ma droite. Geneviève Pinson, directrice du Centre national de préhistoire du ministère de la Culture, qui est basé à Périgueux, et membre notamment également du Centre de recherche et d'études sur l'art préhistorique à Toulouse. Catherine Cretin, conservatrice du patrimoine au Musée national de préhistoire, aux Aisy, également en Dordogne, et qui vous présentera les recherches sur les sites de l'Oural. Patrick Payet, donc, qui est maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle, maître de conférence HDR, il faut que je le précise maintenant, de ce prestigieux titre. Et Jean-Jacques Delannoy, qui est professeur à l'Université de Savoie, membre du laboratoire EDITEM, et à qui je passerai tout à l'heure la parole en premier pour parler des sites les plus éloignés que nous allons voir, puisque ce sont ceux d'Australie. Au préalable, je voulais simplement dire quelques mots autour de ce numéro et de cette thématique qui est traitée ce soir dans le cadre de ces rencontres, autour de l'art préhistorique, un thème finalement où nos regards sont le plus souvent attirés par les œuvres, par les peintures, par les gravures, par les sculptures, et pas toujours nécessairement par tout l'environnement qui est autour. En désignant cette thématique autour de l'art pariétal et de l'art rupestre, on a justement voulu mettre l'accent autour de ces supports, de ces contextes, les parois donc, des grottes et des abris, ce milieu souterrain privilégié dans l'Europe du paléolithique, et pour l'art pariétal, et les roches de plein air, peintes ou gravées, qui sont elles présentes à travers la planète sur des sites de nature extrêmement diverses. Tous ces différents contextes, ces environnements, ont en fait pris place peu à peu dans la recherche au fil du XXe siècle et tout particulièrement ces 30 dernières années. Elles se sont imposées en montrant combien ces différents contextes, aussi bien archéologiques que géologiques, revêtaient une importance toute particulière pour appréhender les différentes facettes des comportements des sociétés humaines à l'intérieur de ces sites, et pas uniquement les œuvres elles-mêmes. Et pour cela, donc, cet art préhistorique, qui était finalement avant tout un objet d'étude pendant longtemps, s'est petit à petit imposé comme un champ interdisciplinaire ou transdisciplinaire que représentent tout à fait les différents articles qui sont publiés dans le cadre de ce numéro et comme vous allez pouvoir le constater au travers des différentes présentations. Donc c'est quelque part cette évolution de notre regard, cette évolution d'une véritable pratique d'une archéologie, d'où le titre de ce numéro, que nous avons voulu mettre en avant avec Stéphane et Patrick et avec l'ensemble des auteurs de ce numéro. Alors je voudrais avoir quelques mots de remerciements, simplement pour finir. Remerciements d'abord à Armel Bonis et à François Gilini, les directeurs de la revue Les Nouvelles de l'Archéologie, qui ont encouragé et poussé à la sortie de ce numéro. Il y a déjà donc maintenant quelques années, avec une pensée particulière pour Claudine Carlin, qui m'avait évoqué ce projet la première il y a déjà quelques temps de cela. Je voudrais également avoir évidemment des mots de remerciement appuyés pour Pascal Rouleau, le directeur des éditions de la FMSH, puisque, comme on vous l'a dit, à la fois nous avons pu bénéficier de cette toute nouvelle maquette, voilà, qui était le numéro sur l'art préhistorique a été le tout premier à bénéficier de cette maquette, mais aussi d'être le premier en 40 ans à être intégralement en couleur. Donc on en est extrêmement heureux et je tenais tout particulièrement à le remercier. Je voulais aussi avoir des remerciements appuyés pour la TFA Faïs et pour Laura Holbert, qui ont assuré le secrétariat éditorial de ce numéro, ce qui était un travail très important. Donc je voulais tout à fait les remercier pour ça. Et également Karine Le Carrère pour avoir assuré l'organisation de cette très belle soirée. Je voudrais simplement terminer en ayant une pensée toute particulière pour une grande préhistorienne qui nous a quittés cet été, Nicole Pigeot, qui a été notamment Stéphane et à moi notre professeur, et qui a toujours un regard extrêmement éclairé bienveillant pour nos recherches, mais très éclairé et très avisé sur justement toutes les implications que vous pouvez porter à l'art préhistorique. Donc voilà, on avait une pensée très particulière pour elle ce soir et on voulait quelque part lui dédier aussi ces rencontres. Alors je vais maintenant passer la parole aux différents intervenants, accueillir le professeur Denis Vialou du Muséum d'Histoire Naturelle qui nous a rejoint et qui interviendra et qui présentera tout à l'heure un autre contexte, celui du Brésil et celui de sites dans lesquels des travaux tout à fait exceptionnels ont été réalisés. Alors je vais, en fait, les intervenants, je vais leur passer la parole en posant quelques questions, en vous faisant glisser peut-être ce... Voilà. Le support visuel. Et en commençant par Jean-Jacques Delannoy, on a pris en fait les articles et les intervenants dans l'ordre de leur publication, justement. Alors je profite de ce petit intermède, voilà, du coup, pour vous présenter, parce que c'était pas prévu, enfin, je ne l'avais pas anticipé, mais je suis très heureux de pouvoir le faire. Donc je redouble mes remerciements auprès des équipes de la FMSH, de Pascal Rouleau et de Laura Holbert, une autre revue qui n'est pas l'objet de la réunion de ce soir, mais qui sera sûrement l'objet d'une prochaine soirée, qui est une toute nouvelle revue qui s'appelle Polygraphe. Polygraphe, revue approche métissée des actes graphiques, pour son intitulé complet, qui est une toute nouvelle revue qui en fait traite des actes graphiques dans leur sens large. Donc ça parle d'art préhistorique, mais pas seulement, ça parle de beaucoup d'autres choses. Et qui a, elle, également une vocation, une approche transdisciplinaire, puisqu'elle est... Elle est en fait le fruit d'un travail d'un ensemble de collègues dirigé par Philippe Hameau, qui est professeur à l'université de Nice, Sophie Antipolis, avec donc des collègues anthropologues, archéologues, spécialistes du design également, et donc une petite équipe de 6 dont j'ai la chance de faire partie. On a lancé ce projet d'une nouvelle revue dont le premier numéro donc, vient de sortir. Je vous invite à le découvrir. Vous verrez qu'il a une présentation et un contenu assez original, ne serait-ce que par la forme, puisqu'il est tête bêche. Vous voyez qu'il y a deux parties que vous pouvez lire dans un sens ou dans l'autre. Et l'une des parties, qui s'appelle Dialogue, a justement pour vocation de faire échanger des spécialistes de domaines différents, de disciplines différentes, autour d'une thématique. Donc le thème de ce premier numéro concerne les actes graphiques au sens large. Denis Vialou y a contribué, et on en est très heureux dans la partie point de vue. Alors, je ne veux pas en dire plus parce que vous aurez l'occasion de le découvrir. Puis en plus, voilà, vous avez la magnifique image qui est apparue. Mais je voulais avoir l'occasion de vous souligner voilà, la parution de cette nouvelle revue dont on est vraiment extrêmement heureux avec tous les collègues. Voilà. Merci Jean-Jacques de m'avoir laissé le temps de cet aparté. Donc, je vais te poser la première question. Tu veux entamer tout de suite.
Tout d'abord, je voudrais vous remercier au nom de l'ensemble des auteurs là, qui sont ici inscrits là, sur les diapos pour déjà l'invitation que vous avez faite pour publier dans ce numéro des nouvelles de l'archéologie et autour de cette notion de l'interdisciplinarité. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et ça nous donne un super support et encore nous remercier aussi pour la présentation de parler plus fort et aussi au niveau de nous avoir invités donc ce soir pour présenter donc le site de Nawal Gabarman si ça veut bien donc clignoter entre le... Ce serait dommage de le faire sans support visuel, étant donné donc, la qualité du site. Voilà. D'accord, ok, très bien. Voilà, donc un grand merci de nous permettre de faire partager à toutes et à tous donc, ce magnifique site de Gabarman.
Un peu de gymnastique de micro. Donc je vais commencer par la première question, pas très improvisée, vous l'avez deviné. Donc en fait Jean-Jacques, ma première question tout simplement, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on évoque les sites ornés, le plus souvent on pense aux images, aux peintures, et pas nécessairement aux lieux dans lesquels ces décors prennent place. Et pourtant la question des paysages, on le voit, est relativement importante, et on le constate tout particulièrement à la lecture de votre article. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces contextes qui concernent Nawal Gabarman et nous faire un peu découvrir finalement un peu les quelques éléments de ce site exceptionnel ?
Alors effectivement, vous le voyez là sur les images, c'est un site de toute façon qui interpelle par sa morphologie, par sa topographie, par ses grands plafonds soutenus par un certain nombre de piliers. Et tout ça, bien entendu, est complètement magnifié par ces grandes fresques qui ont une ampleur importante. Et ce site, interpelle, nous interpelle déjà par sa morphologie et vraisemblablement interpellé aussi donc, les communautés anciennes aborigènes qui ont investi ce site. À tel point que, on le verra par la suite, ces grandes fresques ne sont pas posées n'importe où, elles sont posées sur ces grands plafonds, mais également sur ces piliers. Et si on regarde un petit peu, ce qui caractérise les fresques de ce site de Nawala Gabarnang, c'est ces grands barramundi, donc ces grands poissons qui sont donc peints sur les plafonds, et ils ne sont pas mis n'importe où, ils sont mis, comme vous le voyez sur la photo donc, qui est en bas à droite, sur des ripple marks, c'est-à-dire ces petites vaguelettes qui correspondent à des anciens sables littoraux qui se sont déposés il y a 1,7 milliard d'années. On est dans les endroits où on a les roches les plus vieilles de notre planète, qui ont été métamorphisées et qui ont gardé en mémoire donc, ces vaguelettes, qui, bien entendu, suggèrent de l'eau. Et les barramundi sont peints toujours en général sur donc c'est sur ces secteurs de ripple marks. Donc ça veut dire que c'est un site qui interpelle à différentes échelles, à l'échelle donc du site, à l'échelle donc de la paroi, et puis c'est aussi un site, si j'y arrive, voilà, pardon, je vais trop vite, et puis c'est aussi un site qui n'est pas anodin puisque il se situe donc en haut donc dans ce qu'on appelle la Terre d'Arnhem, qui est cette partie donc septentrionale de l'Australie avec le Cap Horn, et qui sont finalement les secteurs les plus au nord et donc les secteurs par lesquels sont arrivés donc les premiers hommes, donc essentiellement ici les Homo sapiens, puisqu'il y a aujourd'hui que les Homo sapiens qui sont connus donc en Australie. Et vous voyez donc qu'on a un certain nombre de sites avec donc les âges qui sont marqués par rapport à leur fréquentation, autour de 70 000 ans, 52 000 ans, et donc ils se situent les plus au nord, et Gabarnang correspond à de ces sites les plus anciens qui ont enregistré le passage donc, des premiers Homo sapiens sur ce secteur de l'Australie. Aussi, c'est un site qui, dans lequel on a... je ne sais pas ce qui se passe. Ça clignote, je pense. C'est aussi un site donc, qui a été choisi, encore que le terme de choix n'est pas, pas vraiment un bon terme, puisque, bien entendu, ça nous intéressait de travailler donc, dans le nord de l'Australie, dans ce secteur de Terre d'Arnhem et puis aussi du Kimberley. Et en fait, c'était essentiellement lié à une demande de la communauté locale Javoy, qui, au début des années 2000, en fait, nous a demandé. D'abord, on entreprit dans un cadre de recherche et d'éducation de comprendre et d'inventorier le nombre de sites à la fois ornés et archéologiques qui existaient donc sur leur territoire. Ça a commencé au début des années 2000. En 2015, ils avaient déjà répertorié 1500 sites ornés, dont le site de Gabarnang. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont approchés d'abord donc, de collègues de l'université de Monash pour travailler sur ce site. Et voilà comment nous sommes arrivés là. Site exceptionnel, bien entendu, par ces grandes entités graphiques, environ 1400. Et aussi, avec la connexion qui était extrêmement forte avec la population Javoy. Donc c'est un site qui nous a beaucoup marqué et continue à nous marquer, parce que c'est une histoire extrêmement riche et surtout une histoire humaine extrêmement riche.
Merci Jean-Jacques. Alors, peut-être une deuxième question. Je sais que donc, vous avez travaillé dans des contextes extrêmement différents, que ce soit justement donc, ces sites plutôt ouverts vers l'extérieur, ces abris, mais également en contexte de grottes, notamment dans la grotte Chauvet. Comment vous abordez justement ces différents environnements dans les décors et la place qu'ils ont pu jouer ou occuper à la fois dans l'occupation, dans l'exploitation de ces espaces?
vaste question. En fait, ces sites, si on parle de la grotte Chauvet et puis ici le site de Gabarnement, mais aussi d'autres sites, ils se situent jamais dans des endroits qui sont neutres d'un point de vue paysager, d'un point de vue géographique. Ils se situent dans des secteurs qui ont une forte marque paysagère et une forte marque en général géomorphologique. Une entrée de grotte, une entrée de gorge par exemple, avec une arche naturelle comme celle du pont d'Arc, et avec un grand porche qu'on voyait à l'époque dans le paysage, ce sont des marqueurs extrêmement forts. De l'autre côté des gorges, à la sortie des gorges de l'Ardèche, mais qui sont une autre entrée venant de la vallée du Rhône, la vallée du Rhône, on a aussi un nombre important de sites ornés qui sont aussi qui se situent dans ces marqueurs-là. Et pour Gabarnement, c'est à peu près, je veux dire, quelque chose qui est à peu près similaire. Je me trompe toujours de sens, mais non, voilà. En fait, Gabarnement, en fait, se situe sur ce grand plateau que vous avez vu sur la photo tout à l'heure. Hein. Ces grands plateaux, je veux dire, extrêmement arides, où, je veux dire, pratiquement, il n'y a pas d'éléments saillants dans le paysage. Donc, on peut dire, tiens, mais en quoi c'est soit un endroit, je veux dire, important d'un point de vue paysager, d'un point de vue spatial, en quoi c'est un marqueur spatial. Eh bien, Gabarnement se situe en fait à la tête, donc juste au niveau, donc la tête de réseau de 5 fleuves qui vont soit vers le nord de l'Australie, soit vers l'est de l'Australie, soit pas vers le sud de l'Australie, mais au-delà, donc en direction du Kimberley. Et quand on remonte ces 5 fleuves, on arrive à un endroit, c'est l'endroit de Gabarnement. Donc, je veux dire, c'est un endroit qui est extrêmement important dans la géographie donc, de ce grand plateau d'Arnhem. Et il se trouve, en plus, que c'est un site qui a aussi, je veux dire, une empreinte morphologique extrêmement importante avec donc, cette dimension souterraine. Parce que globalement, dans le reste de cette région de terre d'Arnhem ou du Kimberley, c'est plutôt des rock shelters, c'est plutôt des abris sous roche en pied d'escarpement ou, je veux dire, des monolithes plus ou moins effondrés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à un endroit géographiquement absolument pas neutre et aussi avec un paysage qui est absolument pas neutre.
Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment à vocation interactive. Donc même si j'ai le micro, si vous avez des questions, tout de suite, je peux vous passer la parole. N'hésitez pas.
On a une datation précise de ces gravures, enfin, ou peintures ou...
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, donc, dans ce site, une des choses, donc, je vous le rappelle, on était invité donc, par la communauté Javoy, et d'emblée, on est parti sur vraiment une recherche intégrative, c'est-à-dire qu'on a défini ensemble donc, les différents champs disciplinaires impliqués donc, dans ce travail, donc les archéologues, les ethno-archéologues, les anthropologues, des pariétalistes et un géomorphologue. Donc, comment définir un petit peu comment on va travailler ensemble. Et en fait, ça a été défini au travers, effectivement, donc, quand est-ce que ce site a été occupé, quand est-ce que, je veux dire, l'ornementation elle s'est faite, et puis aussi, c'est quoi le dialogue entre ce qu'on trouve en fouille, je veux dire, sur les plafonds et, je veux dire, sur les morphologies. Alors, pour vous prendre simplement un exemple sur l'exemple donc, de ces différents plafonds, d'abord, on a fait une cartographie des plafonds, ce qui n'est quand même pas toujours facile. Une cartographie au sol, c'est facile. Une cartographie au plafond, c'est déjà beaucoup plus délicat. Et à partir de là, donc, on a mené un certain nombre donc, d'études qui ont tout été tout le temps croisé, c'est-à-dire donc étudier les différentes fresques au niveau des séquences picturales, les pigments qu'on trouve en fouille croisés avec ceux qu'on trouve en paroi, dater les œuvres. Alors, bien entendu, la plupart des œuvres, elles sont faites avec des ocres, des pigments, donc ce n'est pas datable, mais on a de retour support un petit dessin qui était fait au charbon de bois, c'est ce que la petite écaille que vous voyez donc en bas. Et puis après, d'autres supports, des représentations qui ont été faites en cire d'abeille. Et ensuite, il y a eu donc des datations qui ont pu être faites donc sur des dignes de guêpe, sur ou sous donc les peintures, et ce qui nous a permis effectivement donc de pouvoir caler ça dans le temps. Je déroule. Donc, en fait, c'est ça qui nous a permis donc, de constater que c'est un site, à la fois dans la dimension temporelle, c'est un site relativement ancien, puisque, je veux dire, là, on est un peu aux limites du carbone 14, donc on est 48 000 ans, mais on a des traces qui sont plus anciennes, et avec l'OSL, on est autour de donc, 52 000. On a trouvé des haches polies vers 35 000. Le premier éca donc, de parois peintes donc, autour de 30 000. Et puis ensuite, les premières grandes peintures au plafond qu'on a pu caler par les datations des nids de guêpes qui nous ont permis de voir voilà, qu'il y avait des nids de guêpes. Et puis au-dessus, a commencé à avoir donc, un certain nombre de grandes représentations, mais qui étaient essentiellement monochrones. Alors que on voit les plafonds, ils sont plutôt donc, extrêmement colorés et surtout donc chromes. Et puis après, il y a d'autres représentations. Donc ici, vous avez ici donc, ce relevé qui a été là. Et puis vous voyez apparaître un cheval donc, dans le dessin. Et ce cheval, en fait, les premiers chevaux qui sont passés en terre d'Arnhem remontent à 1848 avec une expédition donc, d'un naturaliste, donc Ludwig Neschmar. Donc forcément, donc, ces chevaux ne peuvent être antérieurs puisque aucun animal de type de cheval n'était passé dans ce secteur-là. Et donc ça, c'était un bon support donc, de calage donc, par rapport aux différentes peintures. Et tout ce qui est finalement les grandes fresques avec la Barramundi sont postérieures en fait, à 1845. Et ce site a été encore je veux dire, peint jusqu'à la fin du 19e, début du 20e. Donc ça, c'est quand même une des caractéristiques de Gabarnan, c'est cette grande longévité, finalement, donc, d'occupation, donc, depuis environ 50 000 jusqu'à aujourd'hui. Et puis également, dans sa spatialité, c'est un site qui nous a beaucoup interpellés, puisque globalement, tout ce qui rassemble donc, des vestiges, des artefacts donc, archéologiques, les peintures, les ossements, etc., se trouve dans cet espace que j'ai entouré en rond, et qui correspond à un espace qui est relativement ouvert par rapport à ce que vous voyez sur le côté. Les petits éléments que vous voyez comme ça, de cette couleur-là, correspondent à des piliers, vous voyez, qui sont extrêmement denses ici. Et puis après, ils sont donc beaucoup moins denses dans cette partie centrale, et c'est ça qui concentre en fait les œuvres. Donc, est-ce que ce site était ouvert, et donc par opportunité, je veux dire, on a utilisé cet espace et que c'est là que finalement les gens ont fréquenté et ont mis les peintures, ou est-ce que c'est lié donc à d'autres causes?
Merci Jean-Jacques. Je vais enchaîner tout de suite, parce que c'est vrai qu'on a commencé avec un peu de retard, donc on va changer un peu d'horizon. Je vais me tourner vers Patrick. Vers Patrick Payet, donc qui a coédité également ce numéro, puisqu'on va cette fois revenir sur des territoires qui vous seront peut-être un peu plus familiers, ceux de la Dordogne en France, et notamment pour vous parler de la grotte de Fronsac, qui, elle, ne vous est probablement déjà pas forcément très familière. Et l'un des intérêts, c'était de jeter justement un regard sur un site un peu différent de celui que vous pouvez connaître. Alors, peut-être je te...
Micro. Oui, d'abord, un grand merci à vous toutes et tous. D'être présent et d'avoir ce courage de nous écouter. Oui, Fronsac, voilà une grotte du Périgord. Alors j'ai mis cette carte derrière moi, en face de moi, elle est face à vous, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans vos têtes. Hein, le Fronsac dont je vais parler est le Fronsac du Périgord. C'est une petite cavité dans un tout petit village du Périgord. Et ça n'a strictement rien à voir avec le fameux Fronsac bien connu du Bordelais. Donc voilà, la grotte de Fronsac, cette petite cavité très modeste, en fait, dans le nord-ouest du Périgord, qui ne s'inscrit pas de manière ostensible dans le paysage, qui est d'une discrétion absolue, une petite entrée de tout juste 1,50 m de hauteur et de 2 m de largeur, et des petites galeries excessivement étroites. Mais une grotte tout à fait originale.
Alors justement, je vais rebondir à ce sujet, c'est qu'on pense souvent voilà, aux grands sites qu'on évoque régulièrement pour des comparaisons, pour des interprétations. En quoi des sites moins connus, mais probablement pas moins importants, comme Fronsac, peuvent-ils être utiles à la connaissance plus globale de ces activités graphiques des sociétés paléolithiques?
Alors, d'abord, il faut dire que la gare de Fronsaxe, ou dans une région qui est une des régions où les activités pariétales paléolithiques sont les plus denses, les plus importantes. Le Périgord est la région qui rassemble, qui agrège le plus de grottes ornées en France, quasiment une soixantaine. Pour autant, la grotte de Fronsaxe ne se situe pas dans le cœur même de ces concentrations d'art pariétal ou d'aucuns parlent d'art rupestre, de la vallée de la Vézère ou de la Dordogne. Elle est située un petit peu en périphérie de cette région. Et comme souvent les grottes en périphérie, elles présentent à la fois des signes d'originalité et des signes qui la rattachent à l'ensemble des grottes et de la région et des régions limitrophes. Et parmi les signes originaux qui sont présents sur les parois de cette cavité, il y a ce motif très curieux, très simple, qui est que les préhistoriens qualifient de figure féminine schématique. C'est une figuration la plus simple qui soit d'une représentation probablement féminine. Il faut dire que nous avons quand même toutes les étapes graphique de transformation de ce motif. Et là, ce motif arrive à son niveau d'abstraction quasiment, ou de géométrisation le plus marqué à l'extrême fin du Magdalénien, puisque cette grotte de Fronsaxe est, dans les textes, est traditionnellement attribuée au Magdalénien supérieur, donc à l'extrême fin ou quasiment du paléolithique supérieur, sur la base de ce motif. Ce motif original à Fronsaxe est très présent dans la grotte sur ses parois. Une vingtaine de représentations de figures féminines schématiques sur les parois de cette toute petite cavité. Il s'agit de la grotte ornée dans le monde franco-ibérique, on va dire. On va l'élargir davantage encore à l'Europe centrale, puisque l'aire de répartition de l'art pariétal ne se limite pas à la France et à l'Espagne, bien entendu, on le sait bien aujourd'hui. Mais la grotte de Fronsaxe est celle qui rassemble le plus de ce motif particulier, de ces représentations très, très schématiques. Et pourtant, malgré son relatif isolement, cette cavité, ce symbole dans cette cavité a essaimé dans toute l'Europe de façon très étendue. Il s'agit probablement d'un des motifs qui est le plus largement reconnu dans l'Europe de l'extrême fin du Magdalénien, ces figurations féminines schématiques déclinées assez rarement sur des parois de grottes, plus souvent gravés sur des blocs, voire sculptés dans de l'ivoire, dans de la pierre, etc. Donc, cette petite grotte de Fronsaxe, malgré sa modestie, représente un point important dans l'espace de distribution de l'art pariétal paléolithique en Europe.
Merci Patrick. Alors, je me dis que plutôt que ce soit moi qui pousse les questions, j'ai envie de me tourner vers la salle. Est-ce que vous avez des questions déjà auprès de Patrick pour découvrir ce site que je pense que vous n'aviez encore jamais eu l'occasion de voir. Ah, une salle sage et timide. Donc, je vais continuer. Oui. Tant pis, tu auras mes questions. Sûrement moins intéressantes. Alors, justement, parmi cette étude, ce que vous avez eu l'occasion de lancer, c'est en fait un réexamen, je crois, d'un site qui était déjà connu et où vous avez l'occasion de découvrir de nombreuses nouvelles figures. Alors, à la fois, ce serait quelles sont un peu ces nouvelles figures et quel est leur intérêt, d'une part, et d'autre part, quelles sont peut-être aussi les méthodes ou les outils qui vous ont permis ces découvertes.
Alors, en 2012, nous avons lancé, j'ai lancé un projet collectif de recherche dans le nord du Périgord pour engager une révision systématique de toutes les séries appartenantes au Magdalénien supérieur et à l'Asilien, c'est-à-dire à la fin du tardiglaciaire, dans une région qui avait été, dans un secteur du Périgord, qui avait été un peu délaissé par la recherche depuis plusieurs décennies, au profit, bien entendu, du grand axe, des grands axes que nous connaissons bien de la Vézère et de la Dordogne. Donc, nous avons repris l'étude de cette cavité, après d'autres, nous ne sommes pas les pionniers dans cette grotte, elle avait déjà été non seulement étudiée, mais également publiée. Il se trouve qu'au moment où nous engagions une nouvelle recherche dans la cavité, sortait, un peu tardivement, mais sortait tout de même, la monographie attendue de la grotte. Alors on s'est retrouvé un tout petit peu embêté et en fait, en retravaillant d'abord sur l'art pariétal lui-même, c'est-à-dire en prospectant de manière systématique toutes les parois, en passant le temps nécessaire dans la grotte, nous sommes rendus compte que le dispositif pariétal, tel que les préhistoriens désignent ces assemblages iconographiques sur les parois, était beaucoup plus élaboré, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Et puis, nous avons lancé, comme cela se pratique évidemment aujourd'hui, on l'a vu pour l'Australie, on le verra pour d'autres régions, une vraie approche transdisciplinaire. C'est-à-dire que les préhistoriens de l'art que nous étions deux à travailler dans la cavité, se sont entourés bien de spécialistes de géologie, de géomorphologie en particulier. Et c'est vrai que cette partie-là n'était pas forcément très appréhendée dans les premières études. Une partie aussi, également de nombreux collègues sont intervenus pour étudier le matériel découvert en surface. Il se trouve, c'est une cavité qui régulièrement est fréquentée par des animaux très sympathiques, mais qu'il vaut mieux éviter de rencontrer dans les cavités, que sont les blaireaux, par exemple. Et ces blaireaux causent des désordres absolument monstrueux. Et dans cette cavité, ces blaireaux faisaient régulièrement réémerger du matériel archéologique, du silex, de la faune. Et dans ce silex et cette faune, il y avait effectivement des marqueurs, si vous voulez, typotechnologiques du Magdalénien. Donc c'était assez rassurant par rapport à l'approche chronostylistique que nous faisions des représentations. Mais il y avait également des marqueurs qui étaient différents, qui étaient plus anciens, du gravétien par exemple, des outils typiquement gravétiens, voire plus anciens. Et du coup, nous avons décidé d'engager une fouille. Alors, c'est compliqué de fouiller dans une grotte ornée en France, et je crois qu'on était à peu près les seuls. Il y a eu quelques sondages de faits, je crois, à Chauvet, de manière très localisée. Et donc, nous avons obtenu l'autorisation de faire un sondage à un endroit qui était hors champ orné, dans la seule partie de la grotte à peu près accessible en station verticale ou accroupie, tout du moins, quand même une grotte très exiguë. Et donc, nous avons sondé, nous sommes aperçus qu'effectivement, les remplissages étaient d'une très, très grande richesse et qu'ils nous ont fourni à la fois une faune très abondante, de l'industrie lithique et un peu d'industrie osseuse. Mais tout ça semblait assez peu cohérent du point de vue stratigraphique. Et la faune étudiée s'est révélée être une faune apportée là, très vraisemblablement, par de grands prédateurs qui étaient les hyènes. Et nous nous trouvions finalement dans la grotte de Fronsac, grâce au travail fait par les faunistes, dans un repère de hyènes qui avait bouleversé en grande partie les maigres indices du passage de l'homme. Ce passage de l'homme, il est évident sur les parois, par les gravures, etc. Mais ces hyènes avaient quand même pas mal transformé l'environnement. Mais dans ces assemblages, tout de même, il y avait des os qui présentaient des cut marks, par exemple, des os qui avaient été manifestement, des parties d'animaux qui avaient été manifestement découpées par l'homme, etc. Dans ces assemblages un tout petit peu remaniés, il y avait aussi de l'outillage qui relevait des phases très anciennes, du paléolithique supérieur, du châtel péronien, par exemple. Il y avait quelques éléments qui relevaient du gravétien, les dates fournies notamment par ces ossements, les dates C14 fournies notamment par ces ossements présentant des cut marks. Donc tout cela montrait finalement une occupation, même très ponctuelle, mais des passages répétés de l'homme dans la cavité. Et ce travail, ces conclusions tirées par les chercheurs, par ce collectif scientifique, sont venues abonder en quelque sorte une idée que nous avions, ou tout du moins une impression que nous avions, que le dispositif pariétal de cette grotte n'était pas aussi homogène qu'on l'imaginait. Il y avait des animaux qui n'ont rien à faire, représentés sur les parois, qui n'ont strictement rien à faire dans le Magdalénien. Le cerf mégacéros, par exemple. Le cerf mégacéros a disparu des grandes faunes pléistocènes il y a à peu près 25 000 ans, à dire, en Europe occidentale, et ce mégacéros n'existe plus dans l'iconographie, hors le gravétien ou voire le solutréen. En tout cas, aucune trace de mégacéros sur les parois au Magdalénien. Et donc, nous avions là des indices assez concordants qui montraient que finalement, l'art de Fronsac n'était probablement pas exclusivement de la fin du Magdalénien.
Merci Patrick. Est-ce qu'il y a une Une question ? Non, je vous sens très, très... Ah, non. Très attentif. Alors peut-être un tout, tout dernier mot, oui, extrêmement
très
rapide.
Très
je
bref.
Suis désolé,
très,
Patrick.
Très bref,
très bref, parce qu'on va devoir enchaîner. Donc peut-être pour nous, je vois que tu nous présentais quelques-uns de ces éléments. Tu nous évoquais la question de cette figure de Mégacéros. Donc quels sont peut-être les... Est-ce que tu as une illustration à nous...
Oui,
à
alors,
nous présenter.
Très rapidement, vous voyez devant vous des petits éléments très discrets de déchets de fabrication, de débitage du bois de Rennes, typiquement magdalénien. Donc dans ces remplissages, il y avait quand même du magdalénien, je vous rassure, donc c'est quand même assez concordant. Mais aussi, vous voyez, du gravétien, j'avais oublié de vous les passer, ces pièces, ainsi que ces datations, hein, qui sont ici calibrées. Et puis ce châtel péronien tout à fait au fond, du remplissage. Il y a quand même une certaine logique, on va dire, dans la stratigraphie, même si elle est relativement bouleversée. Et... Ah, mince. Voilà. Et sur la gauche, vous avez quelques éléments de faune, et notamment ce fragment de mandibule de cette sale bête qu'on appelle la hyène des cavernes, et qui a causé là des dégâts énormes en digérant beaucoup d'ossements, etc., et donc souvent en effaçant ces tracés. Voici quelques belles représentations typiquement magdaléniennes. Ce bison, qui est le bison dit de la découverte, nous l'avons complété hein, par nos travaux, il était beaucoup moins complet à l'origine. Voici quelques nouvelles découvertes. Le travail de prospection dans la cavité n'a pas concerné que les... l'industrie ou les morceaux d'os trouvés, mais aussi les parois. Et là, de nouvelles représentations ont été identifiées. Voilà. Vous voyez ce petit bison qui est totalement inédit. Une petite représentation de 7 cm de long, très très discrète, dans une galerie quasiment inaccessible. Et puis le fameux Mégacéros. Alors, il faut avoir les yeux de la foi, effectivement, pour le voir. Mais il est assez net dans l'environnement. Le relevé par-dessus vient souligner et suggérer davantage encore l'animal. Mais la technique, les techniques d'expression graphique, de gravure très profonde, la morphologie générale de l'animal avec cette bosse très marquée à la base de l'encolure, certaines caractéristiques de la base de la tête suggèrent véritablement l'hypothèse de cet animal. Donc voilà un petit, dans une grotte d'une grande modestie, quelques résultats comme ça jetés un peu en pâture, mais qui sont beaucoup plus mieux formalisés dans, évidemment, dans l'article qui est publié dans ce numéro. Voilà.
Merci Patrick, merci. C'est pour vous donner envie d'aller voir le texte. Et donc on va enchaîner, si la technique nous y autorise, pour faire à nouveau un voyage dans l'espace, mais pas forcément dans le temps, pour nous tourner cette fois vers l'oral. Changer et nous retrouver, sortir de la grotte et nous retrouver dans ces paysages tout à fait exceptionnels. Et donc je vais me tourner maintenant vers Catherine Cretin pour parler de ces sites de l'Oural. Et puis tout simplement en commençant par le titre de l'article qui était tout à fait intriguant, il existerait un art paléolithique au-delà de l'Oural à plus de 7000 km de Lascaux.
Alors la réponse est oui, elle est facile parce qu'il existe un art mobilier paléolithique reconnu depuis longtemps, au-delà de l'Oural, jusqu'en Sibérie orientale. Voilà. Donc, ça c'est une carte qui positionne les sites de Kalgoutinsky-Rudnik, le site de Kalgoutinsky-Rudnik qui est en Russie, et juste à côté, 20 km à vol d'oiseau, mais pas du tout la même route, deux sites mongols qui ont été prospectés il y a 2 ans, et donc Tsagan Sala et Baga Uyghur. Et on est au milieu de la Sibérie, hein, vous allez voir. L'Oural, il se trouve à peu près là où se trouve Kapovar, Choulgantash. C'était le site pariétal, d'art pariétal le plus à l'est que l'on connaissait. J'ai indiqué Lascaux et Foscoa, il y a pas sans raison. Voilà, on savait déjà qu'il y a une espèce de, un espace eurasiatique au paléolithique supérieur. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, donc ils sont quand même relativement mobiles. Et on savait que tant au niveau de la parure, même pour des périodes du début du paléolithique supérieur, voire même de transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. Et puis, évidemment, il y avait les fameuses Vénus. Alors, elles ont pas tout à fait les mêmes formes à l'autre côté, à l'autre bord de l'Eurasie, mais on savait qu'il y avait quand même quelque chose comme une communauté de formes, sans doute de systèmes de valeurs, etc. La difficulté par rapport à l'art pariétal, c'est que après l'Oural, des grottes, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y en aurait une en Mongolie, mais je ne saurais pas vous en parler, je ne connais rien du tout au sujet de cette grotte. Mais donc, on n'avait pas de zone karstique, en tout cas sur la partie nord de la Sibérie, et donc très difficile de faire des comparaisons. Voilà. J'ai Merci répondu à la Catherine. Totalité de
oui.
la question.
D'accord. Oui, et du coup, j'allais peut-être compléter du coup, pour justement nous dire un peu quelles sont ces découvertes et quels sont ces témoignages d'art donc non pas pariétal, mais d'art rupestre, paléolithique, et quelles sont quelque part un peu leur particularité, leur originelle, ou au contraire, leur point commun avec ce que l'on peut connaître dans l'Europe de l'Ouest.
Alors, leur particularité, tu l'as dit toi-même, c'est le plein air, site de plein air. Site de plein air, c'était pas si évident. Il a fallu quand même aussi qu'on reconnaisse qu'il y a de l'art pariétal de plein air paléolithique sur la partie européenne. Ça, c'est quand même pas si vieux que ça. Hein. Ça date, je ne sais même pas, les années 90, avec Fauchecoa, avec Siega Verde, même un site en France hein, qui s'appelle Fornols. Et on n'avait pas trop imaginé, effectivement, qu'il y aurait des sites qui se seraient conservés aussi longtemps en plein air en subissant les intempéries. D'ailleurs, ça a fait des histoires. Il a fallu un certain temps pour admettre que ça puisse être aussi ancien que ça en avait l'air. Donc, c'est pas un contexte de grotte. Il a fallu déjà qu'on reconnaisse cet art de plein air de l'autre côté. Et puis, ces découvertes, ce ne sont pas des découvertes récentes, en fait. Il y a déjà des équipes. Là, dans le cas de Kalgoutti, c'était une équipe, une expédition russe. Et dans le cas de la Mongolie, c'est une expédition russe, mongole et américaine, où ils ont commencé à trouver des figures qui étaient en dessous des autres, qui étaient quand même relativement qualifiées d'archaïques. Dans le cas de Kalgoutti, les deux auteurs, j'arrive jamais à prononcer le prénom, Vladislav Molodin et Dimitri Tcheremissine, avaient déjà suggéré que ça puisse être des œuvres paléolithiques en comparant, en faisant des comparaisons stylistiques. Particularité aussi, c'est que quand on est de plein air, les figures qui se sont conservées, c'est du piquetage. Et le piquetage, les représentations piquetées, etc., ne sont pas si fréquentes que ça dans les grottes ornées. Je ne sais même pas s'il en existe. Donc il a fallu aussi la reconnaissance de Fauchecoa et de la technique appliquée sur des figures paléolithiques pour qu'on fasse des parallèles. C'est plus facile de faire des parallèles entre des figures qui sont faites de la même technique qu'entre des figures peintes et des figures piquetées ou gravées. Voilà. Voilà quelques exemples très très rapides de ces figures. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, je le sais, j'arrêtais pas de.
Alors, je me tourne à nouveau vers vers la salle à laquelle vous pouvez découvrir justement ces représentations tout à fait étonnantes. Est-ce que vous avez une question à poser à Catherine? Vous me laissez continuer? Ah oui, voilà.
Oui, simple curiosité, quelles sont les roches sur lesquelles ces piquetages ont été réalisés, si vous connaissez?
J'ai un blanc, aide-moi Jean-Jacques, s'il te plaît. Mince, c'est une roche très dure, c'est... Ouais, c'est une roche très très dure, c'est de la radiolarite, c'est ça? En fait, c'est très important, cette nature de roche. Alors, ça, c'est pareil, parce que comparer des piquetages, et là, quand on est allé voir en Mongolie, on n'a pas du tout la même nature de roche. Donc, comparer des piquetages qui ont été faits sur une roche dure et faits sur une roche tendre, ça pose aussi un certain nombre de problèmes. La grande particularité, je vais peut-être anticiper sur une de tes questions, la grande particularité de ces roches, c'est que ce sont des roches moutonnées, là j'ai bien souvenir de ça, des roches polies par les glaciers, donc avec une jolie forme bien arrondie et surtout un superbe vernis glaciaire qui brille, qui nous en met plein la vue d'ailleurs. Et la zone piquetée, elle va être en contraste, elle va être pas brillante. Et en fait, le repérage des figures dépend de l'incidence du soleil par rapport à ces roches et la lecture des figures aussi. Et ils ont joué, évidemment, il y avait un contraste de couleurs à l'époque, hein, quand ils ont, c'était plus clair, la surface est rouge vernissée, et puis quand ils ont piqueté, c'était gris opaque. Bon, là, la différence de couleur a été rattrapée, mais il y a toujours cette différence de brillance. Donc, en fait, c'est très important pour repérer les figures à l'heure actuelle, et c'était un facteur très important dans la façon dont ils ont utilisé le support. Ça renvoie un petit peu à ce que disait Jean-Jacques par rapport à l'Australie. Voilà. Merci. Et il y a l'utilisation des stries glaciaires, parce qu'une roche polie glaciaire, c'est pas quand même complètement lisse.
Je voulais savoir où vous en étiez des datations relatives, bien sûr, par rapport à la déglaciation, d'une part, et aussi, question, est-ce qu'il y a une chronologie interne avec des superpositions, ou bien est-ce que c'est un moment limité dans le temps ?
Alors, pour la chronologie, pour les superpositions, etc., dans le cas de Kalgoutinsky-Rudnik, c'est... tous les sites de plein air, d'art rupestre de plein air, c'est toujours la même chose. Il y a toutes les périodes, sur à peu près, des fois, parfois sur le même rocher ou les rochers d'à côté, parce qu'on est là aussi, pas dans un endroit complètement anodin. On est... Je vais juste passer très, très vite. On est... Évidemment, c'est à la fin... Ouais, mais ça va venir. Voilà. On est sur une croupe qui fait un petit peu verrou dans la vallée glaciaire. Donc, on ne peut pas le rater. Hein. Et puis, en Mongolie, c'est pareil. Il y a toutes les périodes. Donc, ça, c'est des superpositions, oui, mais des superpositions avec des gravures, certains de l'âge du bronze, de l'âge du fer. Des époques médiévales et maintenant des trucs récents. Voilà. Et là, je parle sur le contrôle, alors j'ai oublié de le dire, de mes collègues russes qui connaissent vraiment l'art rupestre de l'Altaï mongole comme de l'Altaï russe. Hein. Voilà. Parce que effectivement, là, j'ai omis de... On est parti bille en tête. C'est une expédition franco-russe menée principalement par les Russes et côté français, bénéficie du soutien d'un LIA qui s'appelle Artemir et qui est dirigé par Hugues Plisson. Voilà. Donc ça, c'était pour la question chronologie, enfin superposition des figures. Les figures qu'on a identifiées comme de style un peu ancien, là, les Russes ont publié un article où ils ont défini le style qu'ils ont appelé le style Kalgouti, donc qui permet de comparer ce qui s'était trouvé à Kalgoutinsky-Rudnik avec les deux sites mongols, de Tsagantsala et Bagaogur. Toutes ces figures, stylistiquement maintenant définies, il va y avoir une publication en anglais un jour. Je ne peux même pas vous dire dans quelle revue, mais elle est, voilà, l'article est traduit, etc. Il faut le soumettre. Sont dessous. Et en Mongolie, il y a énormément de superpositions de figures et elles sont toujours systématiquement dessous. Voilà. Mais ce n'est pas de la chronologie interne du paléolithique. Voilà. On en est à ce niveau-là de résolution. Pour ce qui est des datations absolues, des dates qu'on aurait pu obtenir, c'est du piquetage. Donc le piquetage, ça, il n'y a pas de matière organique datable. Donc il fallait. Je bouge un tout petit peu. Est-ce que je peux passer sur... Donc, en fait, on a fait appel à des gens qui allaient travailler sur Sur la géomorphologie glaciaire, c'est-à-dire le passage du glacier, parce que forcément, ces gravures, elles ne peuvent pas être, avoir été faites avant le passage du glacier, qui aurait tout effacé. Et bien, c'est Jean-Jacques et deux de ses collègues de Chambéry qui sont venus voir le paysage, nous lire le paysage, parce que finalement, nous, on est incapables de dénombrer les moraines, etc., et de décrypter tout ça. Et je vais peut-être te passer la parole, Jean-Jacques. Hein ?
Oui, donc en fait, la question qui se posait, c'est effectivement comment on ne pouvait pas dater directement donc, les gravures, c'était déjà de dater le support. Effectivement, bon, c'est une vallée glaciaire avec des très, très, très belles morphologies glaciaires, mais sur lequel il y a très peu d'études qui ont été jusque-là menées. Donc la question, c'était de se dire quand est-ce que les glaciers se retiraient, à partir de quand je veux dire, ces roches moutonnées ont été accessibles pour être gravées. Et donc, c'est comme ça que nous avons fait donc, un certain nombre de prélèvements pour faire des datations qu'on appelle cosmogéniques et qui nous a permis donc, de constater que depuis, finalement, je veux dire, environ de 12 000 ans, 10 000 ans, bon, en fait, le glacier avait déjà reculé, ce qui nous a beaucoup étonnés parce que nous sommes ici quand même très, très haut en altitude, hein, 2004, et donc on pensait que le glacier était encore bien, bien présent. Ce qui était aussi intéressant, je ne vais pas abuser de la parole, parce que je ne vais pas complètement terminer tout à l'heure sur l'Australie. non, ce que je voulais dire par là, ce qui était aussi intéressant, c'est que par cette étude à la fois donc, géomorphologique et géologique, on voit que le glacier a imprimé sa marque dans le rocher, puisqu'il y a des stries glaciaires, et qui va donc marquer plus ou moins le rocher selon la dureté des roches. Et ce qui était intéressant de constater que les gravures ont été toujours faites dans les secteurs qui étaient les plus tendres, là où on avait finalement le glacier avait déjà fait plus sa marque et donc plus facile à travailler. Donc là, il y a des histoires qui s'entremêlent, qui sont assez rigolotes.
Merci. Merci à tous les deux. Alors, on va enchaîner, on va continuer d'enchaîner. Alors, pour celles et ceux qui seraient peut-être un peu frustrés, vous pourrez avoir encore, on aura encore un temps de discussion plus convivial à la fin de ces présentations autour d'un pot amical. Donc vous pourrez comme ça poser vos questions par la suite. Je vais peut-être me tourner vers cette fois Agueda et Denis Vialou. Agueda Vialou qui nous a rejoint, qui est attaché honoraire au Muséum national d'histoire naturelle et qui donc tous les deux sont également professeurs invités à l'université de São Paulo. Nous allons refaire à nouveau un voyage assez long dans l'espace, puisque nous allons cette fois aborder le continent américain et le centre du Brésil, plus particulièrement donc le Mato Grosso et cette région de la Cité de Pierre, à travers un programme qui s'est étendu pendant plus d'une trentaine d'années et dont, je crois, l'un comme l'autre, vous allez pouvoir nous parler, nous en dire quelques mots. Je vous propose je vous laisse tout de suite la parole pour nous présenter peut-être ce programme sur ce très beau territoire et très riche.
Là, nous nous éloignons beaucoup de toute la chronologie et des territoires que vous connaissez bien, mais nous sommes en Amérique, un nouveau continent, des nouveaux peuplements aussi et une période beaucoup plus récente. Nous sommes là à l'Holocène, surtout à cette période-là, dans cette région de découverte. Les découvertes aussi au Mato Grosso, vous voyez au centre, à l'ouest, centre-ouest du Brésil, et en réalité au centre de l'Amérique du Sud, ont été les premières recherches, celles que nous avons faites il y a plus de 30 ans, et pendant 30 années, sur place. Donc tout était nouveau, tout était intéressant. Nous ne savions pas quelles étaient les datations, quelles étaient les périodes. Et par chance, en faisant une prospection systématique dans une aire relativement petite, de 25 km², nous avons pu, au long d'un fleuve qui est anthropologiquement très connu, dans le sens de Lévi-Strauss, qui a un peu parlé dans les tropiques sur les Indiens. Et donc, nous étions dans les terres des Indiens Bororo. Et ils sont proches encore dans ces territoires, mais n'habitent plus. Donc, nous ne savions pas du tout si les recherches dans cette région elles allaient aboutir à quelque chose d'historique, hein, avec nos Indiens, mais nous n'avons pas trouvé aussi récent que ça. Par chance, nous avons pu connaître une série d'abris rupestres. Donc, il y a une étude vraiment sur les peintures, les gravures, les piquetages dans ces abris. Et nous avons fouillé une bonne dizaine d'abris aussi, et voir une séquence intéressante.
Très bien. J'ai avantage à ce qu'elle parle en premier. Comme ça, ça me permet d'être plus bref encore. Donc, nous sommes en plein cœur de l'Amérique du Sud et la problématique que nous voulions définir il y a un peu plus de 30 ans, hier, c'était de savoir comment les peuplements s'étaient opérés en fonction des grands bassins hydrographiques. Et là où nous sommes, c'est la limite, presque la superposition, entre les sources de tout le bassin amazonien, donc coulant vers l'est, et les sources du grand fleuve, le Paraná, qui se jette dans le Rio de la Plata, 3500 km, je crois, plus au sud. Comment les choses s'opèrent-elles? C'était vraiment ça notre problématique en comparaison avec ce que l'on connaît précisément dans l'art paléolithique, coincé dans ce Finistère eurasiatique. D'un côté, il y a l'océan Atlantique qui marque la limite, et de l'autre, il y a des horizons sans fin. Et il se trouve que sur cette région du Mato Grosso existent des reliefs vraiment magnifiques. Vous en avez la preuve sous les yeux, avec ce que nous avons appelé la Cidade de Pedra, la cité de pierre. Et les préhistoriques ont occupé cette région grâce aux fouilles dont parlait Agueda et aux relevés. On sait que les premiers à se manifester l'ont fait il y a une dizaine de milliers d'années, même probablement un peu plus. Et à 300 km de là, nous avons fouillé un site qui s'appelle Santa Elina, où là, il y a une datation encore plus ancienne, 27 000 ans. Donc on est déjà dans un Pléistocène supérieur un peu avancé. Vous avez sous les yeux une des fouilles, un abri qui contient 500 représentations pariétales à peu près, et plusieurs niveaux d'habitat. Je ne sais pas si Agueda veut dire quelque chose là-dessus.
Cet abri de ferrage grège, nous avons pu voir une séquence continue, hein, depuis 6000 ans avant le présent jusqu'à 200 ans maintenant. Et dans chaque niveau, vraiment, toujours la présence importante des hématites. Et donc, je vous montre quelques parures dans cette roche. Et qu'elle existe dans chaque niveau, pratiquement. Il y a 6000 ans, il y a une parure jusqu'à il y a 100 ans. Et de nombreuses, bien sûr, Denis va parler un petit peu de l'arbre dans cet abri, mais nous ne pouvons pas du tout associer et voir à quelle période vraiment nous avons la peinture ou les gravures qui sont vraiment des 6000 ans ou d'il y a 1000 ans.
Alors j'avais peut-être justement une question, puisque vous évoquiez à la fois les fouilles que vous avez pu mener et les études sur ces sites. Je crois que vous avez découvert de très nombreux sites, plus de 180, me semble-t-il, dans ce territoire. Donc quel lien avez-vous pu éventuellement établir, ou comment avez-vous justement abordé, à la fois d'un point de vue méthodologique et par rapport au paysage, d'une part les fouilles sur un certain nombre de ces abris et d'autre part l'étude des peintures et des quelques gravures qui y sont également associées?
Il était évidemment très intéressant de faire cette tentative de reconnaissance archéologique au pied des parois, première échelle, une micro-échelle, et dans un paysage qui s'étend sur 250 km², 300 km². Donc nous avons essayé de voir ces complémentarités Et ça aboutit à des reconnaissances très intéressantes du point de vue des corrélations qu'on peut éventuellement établir entre ce que l'on voit sur les parois et ce qui se trouve sur le sol, avec bien entendu les éternelles questions qui se posent sur les rapports que peuvent avoir réellement ces deux occupations, les occupations pariétales et les occupations des sols. Et tout ceci a été largement publié, je crois largement publié, pratiquement tout, et nous étions une belle équipe française et brésilienne, à moins que ce soit brésilien et français, selon l'ordre, en coopération avec l'Université de São Paulo. Et j'ai ici un de mes collègues qui a pratiqué avec moi pendant quelques années, n'est-ce pas, mon cher Patrick, pendant 20 ans au moins en ce qui concerne, toutes ces recherches que nous avons faites systématiquement, j'allais dire presque centimètre carré par centimètre carré, sur les parois et sur les sols, fouilles toutes en décapage et de relevés minutieux. Ce qui fait qu'au bout du compte, on s'aperçoit, et je conclue là, on s'aperçoit qu'en plein cœur de l'Amérique du Sud, géographiquement parlant, entre ou sur deux grands bassins hydrographiques, se sont succédées diverses populations, et ces diverses populations ont laissé effectivement des traces symboliques différentes, mais également des traces archéologiques différentes. L'homme ne cesse d'être original, même lorsque l'on a l'impression, quand on fait un parcours ensemble comme ce soir et grâce à la revue, même lorsque l'on fait ça, on a l'impression d'une certaine uniformité. Ce n'est vrai qu'en partie. Il y a une très grande diversité dans tous ces sites, et moi je me suis régalé avec ce que nous avions entendu auparavant de l'autre côté du monde. Donc, magnifique. Merci, cher Eric.
Alors, je me tourne à nouveau vers la salle. Est-ce que vous auriez une question pour découvrir ces paysages encore différents et tout à fait remarquables de la cité de Pierre ? Oui.
Je ne sais pas à qui je vais adresser sa question. C'est parce qu'on a, c'est vrai qu'on a fait un grand tour d'horizon et avec des successions très longues, sur des distances très longues. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez les uns les autres de, la, de ces superpositions, juxtapositions. Alors, surtout quand Jean-Jacques présentait les plafonds, est-ce qu'on voit encore des choses très anciennes ou tout est superposé maintenant, il faut vraiment les chercher ? Ou est-ce que dans l'Oural, enfin au-delà de l'Oural, pardon, on trouve des choses qui se respectent entre guillemets ou qui s'effacent ou voilà. Vaste question, hein, je suis désolé, mais vous l'avez provoqué.
Je réponds juste pour les plafonds de Gavarman. Ce que j'avais, j'étais resté sur une interrogation tout à l'heure sur la diapo. Effectivement, est-ce que c'est un espace qui est ouvert ? Est-ce que c'était, je veux dire, les gens ont pris ça, cet espace déjà ouvert de manière opportuniste, ou c'est autre chose ? Et en fait, je pensais que Eric avait posé une question sur autre chose. Et donc, j'aurais, en fait, tout cet espace qui est ouvert est un espace qui est complètement anthropique. En fait, c'est un espace qui a été construit par l'homme. Et en fait, il y a eu tout un dégagement qui a été fait. Enlèvement des piliers, écroulement des plafonds, enlèvement des piliers, écroulement des plafonds. Donc, tout le paysage que vous avez vu, qu'on a vu tout à l'heure ouvert est lié à un travail de l'homme. Et ce travail de l'homme, il est antérieur, en fait, en grande partie, donc, aux fresques. Et en fait, les fresques, elles sont venues sur ce paysage qui a été construit par l'homme. Et ça, c'est intéressant parce qu'on le retrouve aussi dans le Kimberley à peu près la même chose. Tous ces grands aménagements sont antérieurs, en fait, aux peintures. D'où la difficulté d'avoir une certaine chronologie. On a réussi à avoir des chronologies sur les piliers, en fait, parce que les piliers, c'est finalement les éléments les plus anciens. Et effectivement, là, on a les dessins les plus anciens. Et après, on a les plafonds qui se mettent en place avec différentes générations de peinture qui se fait au fur et à mesure que les plafonds ils ont été construits. Voilà, donc on arrive ici à bien faire le lien entre finalement la construction du paysage et l'ornementation de cet espace. Donc là, il y a un vrai dialogue qui existe à ce niveau-là.
À suivre, mon cher Eric.
Merci, mais on va tout de suite me tourner vers notre dernière intervenante, Geneviève Pinson, pour passer quelque part, donc grâce à cette question, merci Nicolas, d'un abri à l'autre et de revenir vers les territoires ouest européen, et plus particulièrement vers un abri sculpté, celui du Rocco Sorcier, que vous avez l'occasion de découvrir dans cet ouvrage, mais également en ligne, grâce à de très nombreuses publications très innovantes. Et donc, je vais me tourner directement vers Geneviève, et peut-être dans ce cas, profiter de te poser une première question. Puisqu'effectivement, quand on parle d'art paléolithique européen, on pense un peu automatiquement ou naturellement aux grottes, et un peu moins souvent aux abris, qui existent pourtant, qui sont d'importance également, notamment pour la compréhension des sociétés préhistoriques. Donc je voulais voir, peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle de ces abris et sur tout ce qu'ils peuvent nous apporter, justement, comme regard sur ces sociétés.
Bon, merci de me laisser la parole et puis pour cette belle publication, franchement, et ce rassemblement qui est très sympathique. J'ai fait exprès de ne pas porter d'image. Vous pouvez en trouver sur Internet largement. Vous pouvez regarder en bas l'exposition et vous aurez déjà des éléments. Il y a même un petit film qui relate notamment le Rocco Sorcier. Les abris et les grottes, oui. En fait, les grottes, ces espaces plutôt fermés dans le noir, hein. Eh bien oui, en effet, on est dans deux contextes bien différents quand on se trouve en abri sous roche. Abri sous roche, à la lumière du jour, où le contexte n'est pas un paysage aussi minéral que dans la grotte et aussi éloigné du monde. Là, on est dans le monde, on est dans la vie, on est dans l'espace naturel. Et donc, il y a cette symbiose, donc déjà, qui est bien différente des grottes profondes. L'approche en est différente aussi, puisqu'on a un remplissage qui a permis d'accumuler, donc de protéger les parois ornées, et qui a en même temps un avantage pour les archéologues, ce remplissage, c'est qu'il permet de bien dater l'art pariétal, puisque sont associées les occupations humaines avec tous les vestiges, les foyers, le dépôt des industries lithiques, osseuses, etc., tous les vestiges archéologiques. Et du coup, on a, pour le roc aux sorciers, on a vraiment eu une découverte qui est assez originale, parce qu'en fait, la première découverte, c'est la découverte du gisement, parce que le fouilleur regardait par terre et ce qu'il recherchait, c'était une occupation. Il l'a trouvé bien daté, bien documenté. C'est un habitat qui paraîtrait, je dirais, standard du Magdalénien moyen, classique. En revanche, il n'a pas pensé à trouver d'autres éléments liés aux expressions graphiques. C'est Suzanne de Saint-Mathurin qui va venir quelques années plus tard, qui, elle, vu l'époque relatée par ce site, la suite a pensé qu'il y a sans doute de l'art paléolithique associé. Et en effet, elle va en trouver dans les déblais même de l'ancien fouilleur, Lucien Rousseau. Et c'est comme ça qu'elle va dégager la fouille et comprendre que non seulement elle se trouve, au début elle ne trouve que des blocs effondrés du plafond, mais elle ne sait pas qu'ils sont effondrés, elle pense à un art sur bloc, parce que le préhistorien a la manie c'est son propre piège qu'il crée en définissant ses classes, l'art pariétal, l'art mobilier, l'art sur bloc. Or, ce n'est pas du tout ça, en fait. Là, donc, elle était dans cet esprit de l'art sur bloc par rapport à vos découvertes au roc de Serre, de son amie Germaine-Henri Martin. Mais là, en dégageant l'abri, elle trouve les sculptures au plafond et après, elle va dégager plus loin, en aval, toute une frise de plus de 20 mètres de long de sculptures monumentales, mais aussi se cachent quelques gravures fines et quelques éléments de peinture. On est dans un espace ouvert. L'accès est plus facile, c'est un site qu'on voit de très loin. De l'autre côté de la vallée, même pas de l'Anglin qui coule au pied de ce site. J'ai même pas dit où il se situe, mais il se situe dans le seuil du Poitou, juste au sud de Poitiers, à proximité de la roche posée, si ça vous dit quelque chose, pour ces produits de beauté. Et donc, du coup, c'est un site qui a une ouverture telle qu'on le repère dans l'espace. Il a un rayonnement, c'est une esplanade large, et en même temps, on voit bien qu'il y a une relation très forte entre l'occupation et ses œuvres pariétales. Ça n'enlève rien à une notion de sacré qu'elle pourrait avoir ou autre chose que l'on n'explique toujours pas. Mais c'est pour dire qu'on a un autre regard que sur les grottes profondes et que ça apporte en effet sur la société, d'autant plus avec ce qui est révélé sur la paroi. On a notamment tout un troupeau de bouquetins qui représentent vraiment la vie sociale du bouquetin, avec tous les éléments sont rassemblés, la harde de mâles et la chevrée, c'est-à-dire le troupeau des chèvres et des jeunes bouquetins. Et là, on a un récit véritablement qui s'affiche, donc qui est à l'échelle 1, rendu sculpté à l'échelle 1. Donc, on est vraiment l'occupant, celui qui circule dans ce site, est à la même échelle que ce qui est représenté, qui pourrait être vivant juste à côté de lui. Donc, on est vraiment dans une symbiose et une ouverture. Donc, on est plus vers un... Enfin, c'est autre chose que les grottes profondes, c'est clair.
Alors, j'avais peut-être une autre question tout de suite. C'est que parmi ces, justement, les représentations, les bouquetins ou les bisons dont on parlait, il y a différentes techniques. Et la question de leur lecture ou de l'enregistrement, on en a parlé un petit peu déjà auparavant, elle est tout à fait essentielle et elle met en place de nombreux nouveaux outils, notamment Rocco Sorcier. Je sais que vous avez développé un certain nombre d'outils d'analyse et d'enregistrement autour des modélisations 3D. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet?
Ah oui, ça, dès les années 90, en fait, quand on me demande de reprendre l'étude de ce site, la difficulté, c'est de prendre en compte la troisième dimension, puisque là, la sculpture est vraiment très présente. Donc, même si elle est fondamentale dans les œuvres peintes et les œuvres gravées, là, elle est prégnante, c'est-à-dire que c'est l'élément même des sujets représentés. Donc, très tôt, je vais me tourner vers l'atelier de photogrammétrie du ministère de la Culture pour faire une photogrammétrie à l'époque avec des appariteurs devant une machine. Donc, c'est là, en fait, que j'ai construit ma méthode d'analyse, à savoir repérer comment je traduis ce que je vois sur la paroi et que j'en ai déduit une charte graphique en partant, évidemment, des travaux des anciens, de Laure Blanchet, des Deluc, etc., et adapté au site que j'avais à étudier, et une charte graphique, faisant un peu de géographie par ailleurs, étant un peu cartographe, essayant d'avoir un langage commun et qui puisse être approprié par les autres chercheurs qui travaillent avec moi. Donc on a une charte cartographique qui va se définir, et en même temps, on va utiliser la 3D. Donc là, on va s'apercevoir très vite, j'ai eu beaucoup de mal, la cité 90, 15, 17, voilà, trouver quelqu'un qui osait faire une saisie en 3D d'un monument en fait, qui faisait 20 mètres de long sur 3 mètres de haut. On savait très bien faire les petites statuettes, les pièces, etc. Mais un monument pareil, c'était très difficile. Les puissances des machines, les stockages, etc., n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui. Et la Société Art Graphique et Patrimoine a voulu se lancer avec moi dans cette aventure et on a numérisé. Notre première action de numérisation vient de la recherche. Et en fait, notre idée était de comprendre l'éclairage de ces œuvres au cours de la journée, ne serait-ce que cela. Donc, on a simulé l'éclairage du soleil sur les roches et voir les ombres se déplacer. Mais ça ne suffisait pas, parce qu'il fallait aussi simuler la nuit, puisqu'on avait la trace des foyers, on avait un autre éclairage. Il venait du sol. Et justement, là, c'est là que l'archéologue doit revoir un peu ses pratiques habituelles. Et même l'artiste qui va restituer nos relevés, etc., puisque souvent, il donne des éclairages arbitraires en haut à gauche, enfin, ou alors la lampe toujours bien placée à gauche. Voilà. Donc là, ce n'est pas le cas. Là, il faut faire tourner la lumière. Elle révèle des choses différentes. Elle fait un jeu de cache-cache avec les sujets. Donc, en fait, on imagine parfaitement le nombre de récits que pouvait inspirer ou pouvait... être raconté à partir de ces figures sur la paroi. Donc c'est aussi une démarche qui a été faite avec les éléments 3D, le modèle 3D. Et après, au Roc aux Sorciers, on a beaucoup de retailles, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un moment des représentations essentiellement de chevaux, bisons, et puis tout un panneau qui représente trois figurations féminines à trois stades de leur vie de femme, qui sont vraiment symboliques et qui sont grandeur nature également, qui sont exceptionnelles. Et à un autre moment, c'est le troupeau des bouquetins, et les bouquetins viennent entailler les bisons. Donc on a vraiment on l'observe véritablement quand on étudie la paroi. Or, il nous fallait le simuler, puisqu'en fait, on voyait des vestiges de bisons qui restaient derrière les bouquetins. Donc en fait, la 3D nous a permis aussi de simuler plusieurs états de la paroi. Donc le temps des bisons, on va dire, et puis le temps des bouquetins, en complétant les figures de façon virtuelle. Et là, on a pu faire des analyses intra-site, donc on voit que les bouquetins, c'est la même main. Chaque animal est fini par la même main, c'est du véritable copier-coller en trois dimensions des postérieurs, etc. Et on a aussi fait un travail, puisqu'on la DRAC m'avait sollicité pour étudier la chaire à Calvin en Charente, à Angoulême, à 180 km d'angle sur l'Anglin. Et à ce moment-là, en croisant les données 3D des deux ensembles et sans en modifier les dimensions, on a pu réinterpréter les œuvres de la chaire à Calvin, puisqu'en fait, notamment la bouctine, les tailles du roc aux sorciers se font complètement dans un des sujets de la chaire à Calvin, sans modifier le volume, les formes, l'épaisseur, etc. Et là, c'est le vertige que cela nous donne, à savoir qui a réalisé ces œuvres aussi semblables d'un site à un autre, à 180 km de l'autre, il y a 15 000 ans. Et ça nous donne le vertige, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une école? Sur quoi il s'appuyait pour pouvoir reproduire aussi exactement les attitudes, les épaisseurs, les formes des animaux? Est-ce le même artiste? Alors là, c'est encore plus vertigineux. Voilà, c'est des problématiques très intéressantes pour nous aujourd'hui vis-à-vis de sculpteurs contemporains. Voilà, comment on se transmet de tels formats, même si on a des éléments que l'on peut avoir, en peau de bête, en bois, enfin voilà, je ne sais pas. Mais il y a vraiment une copie là, et on voit bien qu'il y a... Il y a quelque chose qui se passe entre ces sites et qui marque un territoire. En tout cas, des déplacements et des rapprochements. Et les idées, là, sont étonnamment proches les unes des autres. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Est-ce que vous avez des questions pour Geneviève?
J'ai deux questions, mais on n'a peut-être pas le temps pour les deux. Mais la première, c'est est-ce qu'avec ces modélisations des feux et puis des éclairages du jour, est-ce qu'on arrive à déterminer une espèce de... d'état idéal de la paroi ou d'expressivité maximale ou de représentativité maximale qui permettrait de dire à quel moment de la journée ou de la nuit on est venu les graver ou achever les gravures?
Pour l'instant, non, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'à chaque, selon le moment, on a une mise en valeur d'une chose particulière ou d'une autre. Donc, pour l'instant, on n'a pas ce moment précis de la réalisation même des figures, à quel moment c'est fait. Et à quel moment elles sont utilisées. Alors, en même temps, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi le fait que par moments, elles n'étaient pas forcément visibles. On s'aperçoit que sur toutes les arêtes naturelles, on a sculpté des anneaux, c'est-à-dire des trous dans la paroi pour accrocher quelque chose. Est-ce que ces parois étaient pour segmenter des espaces? Est-ce que c'était pour cacher? Enfin, là, on peut émettre beaucoup d'hypothèses. En fait, on ne connaît pas aujourd'hui les différentes périodes d'exécution des figures, la période bison, chevaux et femmes et la période des bouquetins. En fait, on s'aperçoit que c'est bien du Magdalien moyen. C'est un Magdalien moyen où tout le bagage industriel, je dirais, est identique, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec les mêmes choses dans la poche pour bricoler, pour aller chasser, etc. Par contre, au niveau de la pensée, on a vraiment un changement intellectuel, enfin, qui concerne le groupe. Il y a une innovation de pensée, de restitution d'une image sur la paroi qui n'a rien à voir. On est avec les bouquetins, on est avec une dynamique vivante, une histoire. C'est narratif presque. Et alors que précédemment, on était sur des symboles très forts de juxtaposition, bison, mâle, femelle, etc. Mais on n'arrive pas à être plus fin aujourd'hui dans l'analyse. Moment de création.
Oui.
Oui.
Autre question. Vous nous avez parlé parfois de la reconnaissance d'une seule main qui réalise plusieurs figures. Est-ce qu'on a une idée de la durée nécessaire à la réalisation de ces sculptures?
Alors, quand je commence à étudier, je pensais que c'était un peu long. Mais en fait, je dirais que c'est très bref, très court. Pourquoi? Parce qu'en fait, un sculpteur local d'Angle sur l'Anglin m'a amené un jour sur un morceau de falaise qui est en fait assez en continuité dans la vallée. C'est pas au même endroit, mais par rapport au calcaire qui a servi de support à la frise. Et quand il m'y a amené, en fait, ce calcaire, il venait d'enlever une roche. Et le calcaire était mou comme de l'argile. Et il a sculpté au couteau un visage, comme ça. Et en fait, il s'est durci. Et voilà. Et donc là, ça remet en question quand même la durée de l'exécution. Et quand on voit la finesse des œuvres pariétales, le détail des yeux, le détail des oreilles, etc., des animaux, des sabots. Il y en a un, on voit carrément les tendons de la patte. Ils ont dessiné la sole du sabot. Enfin, c'est très, très détaillé. Voilà, c'est à mon avis, c'est un moment d'exécution qui n'a pas été très long. Non, j'en suis de plus en plus convaincue et voilà, je commence à avoir quelques preuves. Ah non, pas avec moi, Boris.
Une intime conviction. Pardon. Non, tu nous as montré de l'art qui est pas de l'art pariétal, pas de l'art en grotte et qui est presque de l'art de plein air. De l'art de plein air, donc on en a au Portugal, en Espagne, on en a maintenant dans l'Altaï. On ne peut plus trop dire que c'est les conditions climatiques et l'érosion qui déterminent la conservation différentielle. On en a un tout petit peu en Allemagne. Et alors, est-ce que ce sont, je reviens à l'ouest de l'Europe, est-ce que ce sont ces petits pointements, Fornols-le-Haut, l'Allemagne, etc., sont des exceptions qui confirment la règle qu'il n'y a pas d'art de plein air ailleurs? Ou est-ce que ton intime conviction, et je pose la question aussi aux autres, hein, est-ce qu'il y avait plein d'art de plein air et qui n'est pas conservé dans le sud-ouest de la France?
Bon, enfin, oui, moi je pense qu'il est possible qu'il y ait eu de l'art de plein air un peu plus dans nos régions. Est-ce qu'on a su le regarder aussi? Je ne suis pas sûre que la prospection soit vraiment systématique. Ensuite, je pense qu'il y a aussi quand même des problèmes d'érosion sur nos calcaires. En tout cas, moi, ce que je vois, qui sont quand même différents. Donc, ça ne veut pas dire. Ce qu'on a, c'est quand même un négatif. Tu as raison, d'un point de vue épistémologique, on a vraiment pas l'ensemble de ce qu'il y avait. Hein. Ça, c'est sûr. Après, te dire une proportion, je serais bien incapable. Mais je le vois par rapport à l'évolution de la falaise du Roc, par exemple. On a des formes qui, d'après les géologues, étaient beaucoup plus marquantes dans le paysage à l'époque préhistorique et qui s'effacent, s'érodent en fait, et du coup s'atténuent. Et donc l'aspect morphologique devait être beaucoup plus marquant du relief de la falaise, de l'espace choisi même. C'est assez intéressant. Il y aurait encore, à mon avis, à prospecter.
Juste pour compléter un tout petit peu, parce que ça ne donnera pas quand même la réponse satisfaisante, je pense. Il ne faut pas oublier, alors, pour revenir en Dordogne, que les abris sous roche, qui ont été des grands habitats comme Laugerie Haute, comme l'abri Pateau, comme les sites du Vallon de Castelmerle, donc Castanet, etc., étaient des abris ornés. Et le décor, il est en miettes au sol et dans plusieurs couches archéologiques. Donc, il y a eu des... Peut-être même c'était systématique, mais là, on ne pourra jamais le dire. Mais il y a eu un phénomène de décor des abris sous roches du paléolithique supérieur qui était important et dont on n'a que des miettes. Moi, je reprends juste par rapport à l'abri du poisson, j'ai repris l'étude il y a 2 ans et demi. La quantité d'éléments, de décors pariétal, et heureusement que Peyroni les avait ramassés, parce que les autres ne l'avaient pas fait, montre qu'il y a 2 phases d'occupation à l'abri du poisson, aurignacien et gravétien. Eh bien, il y a eu certainement au moins 2 phases de décor, une à l'aurignacien et l'autre à gravétien, sinon plus. Voilà.
Sur ce sujet, peut-être sur la question des territoires ou des paysages, je me retournais vers les différents intervenants. Vous vouliez compléter peut-être sur l'un des mots, parce qu'on a évoqué ces questions-là qui reviennent finalement, on le voit, quels que soient les contextes.
Merci, Eric. Oui, je veux bien dire un mot en contrepoint de cette question. Je ne suis pas très sûr que les choses soient identiques lorsqu'elles se déroulent pendant le Magdalénien ou pendant l'Aurignacien et le Gravétien. Donc, comme vous le savez, je suis contre toutes ces généralisations que nous faisons dans l'art paléolithique, comme si nous le comprenions dans sa totalité. L'intérêt aussi de la découverte de Foscoa après Siega Verde et d'autres grands sites, c'est leur éloignement. C'est-à-dire qu'ils sont à part, relativement à part, de toutes les grandes concentrations que l'on connaît en abris et en grottes dans les régions que nous avons évoquées tout à l'heure. Et il nous est facile de les caractériser, art rupestre, art pariétal, pensant avoir cerné bien le problème. Il est quand même extrêmement curieux, intéressant de voir que dans l'art de plein air, on ne trouve quand même pas sur les parois, là je parle trop en général, mais les mêmes choses que ce que l'on trouve dans les parois des cavernes. Il y a en particulier toute une problématique extrêmement complexe et intéressante concernant ce que l'on appelle les signes et leur rapport, leur non-rapport avec les figures animales. Voilà, c'est une simple réaction que j'ai voulu, bref, pour ne pas retarder le moment le meilleur de cette soirée. Peut-être.
Bien, mais écoutez, je vous propose que nous en restions là momentanément, mais comme l'a très bien rappelé Denis Vialou, nous allons pouvoir poursuivre ces échanges juste à côté, autour d'un verre de l'amitié, et vous rappeler que donc, ce très beau numéro des Nouvelles de l'archéologie est en vente ici, si vous souhaitez l'acquérir, ainsi que d'autres numéros qui est précédents de la même revue, et même en exclusivité, la revue Polygraphe, dont je vous ai dit quelques mots tout à l'heure. Merci encore, merci à nos intervenants, dont je n'ai pas rappelé... Merci pour eux, dont je n'ai pas eu l'occasion de rappeler, mais vous en comprenez, que beaucoup sont venus en plus de loin, spécialement pour cette occasion, pour ce rendez-vous. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel et d'avoir contribué à ce numéro. Et donc, on poursuit autour d'un verre tout de suite.